Bon, je crois que ça y est. Bon, madame, je vais commencer par vous demander votre nom et votre date et lieu de naissance, si vous
Est-ce que vous
permettez.
commencez par être très indiscret?
Oui, enfin, oui.
Bon, alors je m'appelle Françoise Pic, je suis née le 2 août 1944 dans un petit village qui s'appelle Mur, qui maintenant
Oui.
s'appelle Mur-et-Rignier et qui est à côté d'Angers.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille et votre enfance à ce moment-là?
Alors, mon enfance s'est déroulée à Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire dans la banlieue de Paris, banlieue ouest, où mon père était médecin, et donc ben, petite bourgeoisie locale, plutôt notable, mais notable anticonformiste, de gauche. Bon, ayant participé un peu à des choses avec le Parti communiste, avec l'Union de la gauche, etc. Donc, du côté de mon père,
Mais carrément communiste
non,
ou
non, non,
plutôt
non, non,
socialiste ou
non. Non,
SFIO?
c'était un peu, par exemple, il avait été candidat à un moment à des élections municipales où il y avait
Oui.
une liste qui était un tiers communiste, un tiers socialiste et un tiers personnalité. Donc, c'était un peu les bon, c'était un peu les intellectuels, toute proportion gardée, parce que c'était pas un grand intellectuel, mais c'était quand même un peu ce type de participation. Il n'a jamais été membre d'un parti.
D'accord. Et vous étiez plutôt laïque?
Du côté de mon père, oui, c'était tout à fait laïque, avec même un goût pour l'anticléricalisme. Du côté de ma mère, c'était beaucoup plus traditionnel. Ma mère ayant été élevée au couvent, pas au couvent, enfin bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Angers, enfin, elle était
Oui,
originaire
Télessa, oui.
d'Angers, Bellefontaine, ça s'appelait, enfin voilà. Donc une
Oui.
éducation, tous les deux étant d'ailleurs enfants de militaires,
Ah ben d'accord.
mais mon père ayant été très en opposition avec cette origine familiale, ma mère beaucoup moins. Donc pas mal de conflits politiques entre eux, chaque fois qu'il y avait des questions sur la laïcité, notamment enfin, dans les histoires de France, hein, des histoires dans les années 54, je crois, sur chaque fois qu'il y a eu des crises de la laïcité, mes parents étaient
Oui.
opposés. Et puis sur n'importe quoi, sur la guerre d'Algérie, sur mai 68, sur... Donc moi j'étais du côté de mon père depuis toujours.
Et quelles étaient leurs opinions à l'époque de Vichy et de l'occupation allemande?
Alors mon père avait été, il avait fait la drôle de guerre, quoi, mais il
Oui.
avait été, à ce moment-là, il avait quitté parce qu'il avait fait ses études de médecine dans le cadre de l'école de santé militaire. Et
Oui.
la guerre a été l'occasion pour lui de quitter, enfin après la drôle de guerre, il a quitté. Donc ils étaient, il n'a pas été résistant, mon père, mais il était évidemment complètement de ce côté-là. Et ma mère, oui, je pense qu'elle était gaulliste à l'époque. Hein, c'était, ils n'étaient pas du côté de Vichy, de l'occupation, certainement pas, mais ils n'ont pas été résistants.
D'accord. Donc, vous êtes venu à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie vers.
Toute petite, j'avais
Oui.
18 mois.
Ah oui, d'accord. C'était pour des raisons professionnelles ou.
Oui, mon père a trouvé sa première. Il s'est installé médecin là.
D'accord. Et vos études, ça s'est
Alors
passé
j'ai fait mes
comment?
études, ben, j'étais fait mes études à Mantes-la-Jolie ben, jusqu'à la fac, hein, où je suis venue à Paris.
Dans le système public ou catholique.
Non, non, catholique, non, non. Non, j'ai jamais été dans un système catholique. Mais mon primaire s'est fait dans une école privée. Mais privée laïque, qui était.
Oui, d'accord.
Encore que quand j'étais à l'école maternelle, on me racontait toujours ça, parce que c'était l'école communale.
Oui.
Et on racontait que je disais que j'allais à l'école communiste. Ça faisait beaucoup rigoler. Bon. Donc, mais non, j'ai jamais été chez les curés, chez les sœurs, des choses comme ça,
D'accord.
jamais. Et en plus, j'ai toujours été dans l'enseignement mixte. Et j'ai découvert tardivement que ce n'était pas la généralité.
Ouais, d'accord.
Mais en fait, c'était vraiment le début de quand je suis rentrée au collège et au lycée. C'était les premiers collèges et lycées mixtes et je ne savais pas que ce n'était pas comme ça partout. Ça
Ça
me paraissait.
a commencé après la guerre?
Oh non, beaucoup plus tard.
Non.
Ça a commencé dans les années. Enfin, après la guerre, si, c'était après la guerre. Mais bah donc, moi j'étais, oui, c'était dans les années 50. Je suis rentrée en, oui, 55.
D'accord. Et vous avez fait le lycée à Mantes?
Oui.
Et puis vous avez fait
Après, je suis
une
venue à
école
Paris.
préparatoire ou vous êtes
Non, non,
arrivé tout de suite à l'université?
je suis venue à l'université.
À la Sorbonne ou comment ça se
Alors,
passait à ce moment-là?
j'ai commencé. J'avais une hésitation sur mes études. Bon, j'ai fait de bonnes études secondaires.
Oui.
Assez brillantes. Et en tout cas, j'étais. Enfin, je pense que c'est. Parce que. C'était pas. Finalement, non plus très très évident pour les filles à l'époque.
Non.
La famille n'aurait pas poussé comme elle poussait les garçons, quoi. Donc moi, il n'y avait pas à me pousser. J'avais un peu le sentiment qu'il fallait que je fasse, mais qu'il fallait que je prouve, notamment à mon frère aîné qui me disait volontiers, mais je suis plus intelligent que toi puisque je suis un garçon, et que l'école était le moyen d'avoir un truc extérieur
Oui.
qui dise que j'étais meilleure. Donc j'ai fait de bonnes études. Et mon père était très intéressé par. Enfin, il était très présent
Oui.
du point de vue des études.
Oui.
J'avais une communication intellectuelle avec lui, du point de vue de la littérature, de la politique, je ne sais pas quoi, qu'il n'avait pas du tout avec mes frères.
Ah bon?
Ils étaient très déçus de ne pas l'avoir, mais eux, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était la bagnole. Je sais pas quoi, c'était pas les jeux vidéo, mais c'était des choses correspondant à l'époque, quoi. Donc ils n'étaient pas branchés intellectuels.
Et qu'est-ce qui explique votre intérêt à des choses politiques et
Bah,
à ce moment-là?
moi, je pense que c'est l'influence de mon père.
Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme études à l'université?
Alors quand j'étais hésitante sur mes études, je pense que j'avais envie de faire de la sociologie.
Oui.
Et mon père me poussait plutôt à faire de l'économie. Et comme j'hésitais entre les deux, je me suis inscrite à la fac de droit et à la Sorbonne en propédeutique. Et en fait, les cours à la Sorbonne m'ont pas intéressée du tout.
Pourquoi
Et
pas?
je sais pas, c'était un peu insaisissable, c'était un peu tout et n'importe quoi.
Oui.
Je ne me suis pas sentie. Et j'ai au contraire été très séduite à la fac de droit, notamment d'ailleurs par le cours de Duverger,
Ah oui,
de
d'accord.
sociologie politique.
Oui.
Et donc, bah j'ai abandonné la Sorbonne et j'ai fait la fac de droit. J'ai fait à part ma première année que j'ai redoublée, j'ai fait jusqu'au bout la fac de droit. Je pense que j'avais pas envie de sortir des études, ou je sais pas, enfin en tout cas, quand j'ai eu fini, je me suis posé la question de ce que j'allais faire maintenant comme études. J'ai pas du tout imaginé autre chose. Donc c'est à ce moment-là que je suis retournée à la Sorbonne.
Oui.
Je me suis inscrite en socio. Donc j'ai fait. Parce qu'il y avait des équivalences, donc j'ai fait licence et maîtrise de sociaux. Et c'est là qu'on est arrivé à mai 68.
Donc, revenir un peu en arrière, vous avez commencé la fac de droit en quelle année?
Alors, ça doit être 61 ou 62?
Oui. Et vous étiez en train de faire une
62 probablement.
maîtrise, une licence, une maîtrise de sociologie quand mai 68 est arrivé.
Oui. J'étais en maîtrise de sociologie en mai 68.
Et est-ce que vous étiez motivé politiquement avant 68? Comment ça s'est
Oui,
passé?
oui, oui. J'ai toujours été motivée, mais toujours un petit peu dans la ligne qui était un peu celle de mon père aussi, qui était un engagement avec une certaine distance critique.
Oui.
Notamment quand j'étais au lycée, J'ai participé à. J'ai fait un journal de lycée bon, pendant la guerre d'Algérie.
Oui.
J'étais dans un comité antifasciste au lycée. Et dans ce comité antifasciste, il y avait des communistes et des compagnons de route, quoi, finalement. J'étais
Oui.
compagne de route. Et j'étais. J'ai toujours été assez critique par rapport à un engagement. Un peu sans distance, quoi.
Oui. Est-ce
Mais
que...
en même
Oui.
temps, toujours engagé.
D'accord. Et engagé avec certains gens en particulier, ou est-ce que ça a changé enfin, depuis le lycée jusqu'au fac de droit, jusqu'à la Sorbonne? Est-ce qu'il y avait un certain nombre de gens, de camarades avec qui vous
Non,
travaillez
pas
régulièrement? Non,
tellement.
non.
Pas tellement, parce que quand je suis venue à la fac, j'avais plus du tout je rencontrais plus du tout les gens d'avant. Bon, j'ai eu du mal en arrivant à la fac, parce que j'ai pas retrouvé de groupe avec lequel je partage beaucoup de choses. Et politiquement, en plus, la fac de droit, c'était vraiment pas. C'était pas facile. Donc je m'étais inscrite au truc de l'UNEF de la fac de droit, qui
Oui.
s'appelait la GDZEP, mais qui n'existait pratiquement pas. C'était un engagement, ils étaient à la fac de droit, ils étaient tous au syndicat de droite.
Oui.
Et donc moi, j'y étais pas. Et j'ai pas eu de relation tellement à la fac de droit. Enfin, j'avais des collègues de travail, quoi,
Oui.
mais j'ai pas eu de groupe d'affinité beaucoup. En fait, jusqu'à mes 68, j'ai pas eu beaucoup de groupes. Enfin, j'avais des copains que je retrouvais au café ou le soir au bistrot ou je sais pas quoi, mais j'ai pas eu de. J'étais assez solitaire jusqu'à mes 68.
Vous habitiez à Paris ou
J'habitais Paris,
chez vos parents?
j'habitais Paris en semaine et le week-end à Maule. Je devais être quand même je dis Maule, non, à Mantes. Je vais y être quand même plus que ça parce que j'ai pendant la plus grande partie de mes études, j'ai été pionne
Ah oui?
à Mantes, au lycée où j'avais fait mes études.
Pendant la journée?
Oui, enfin pas, enfin
Certains
c'était
jours?
un statut pour les étudiants hein, qui où on faisait je ne sais pas combien de jours par semaine où on était voilà, on faisait la discipline,
Oui.
etc. Et on gagnait. Et du coup, on avait une certaine autonomie par rapport à la famille. Moi, j'ai jamais demandé d'argent à mes parents.
D'accord. Donc arrive mai 68, racontez un peu votre
Alors,
trajectoire.
mai 68, c'est. Alors, j'avais cette double affiliation
Oui.
du lycée de Mantes, où j'étais
Oui.
pionne, et où là, j'avais vraiment des copains. Enfin, vraiment, dans le groupe des pions, on était très proches, on discutait politique beaucoup. Et puis la fac, où j'avais pas d'amis très très proches, mais j'avais quand même des gens avec qui je discutais. Et alors, mai 68 arrive, évidemment, tombe brutalement dessus parce que moi j'avais pas à ce moment-là, j'avais pas d'engagement. Bon, j'étais inscrite, j'étais pas dans un groupe. Et mai 68, pour moi, c'est clair, c'est le 3 mai 68 à 4h20 parce que j'avais cours à la Sorbonne
Oui.
à 4h et je suis arrivée en retard parce que le vendredi. Mon père venait, moi quand j'étais à Paris, j'habitais chez ma grand-mère.
Oui.
Et mon père venait tous les vendredis déjeuner chez sa mère
Oui.
et aller au cinéma l'après-midi. Donc j'allais éventuellement au cinéma avec lui. J'ai beaucoup été au cinéma avec lui pendant au début de mes études. Hein,
Oui.
il a fait aussi mon éducation cinématographique. Et donc ce jour-là, on a déjeuné chez ma grand-mère et on est partis ensemble au Quartier Latin. Je l'ai posé devant le cinéma où il allait et j'ai voulu rentrer à la Sorbonne. Et la Sorbonne était donc entourée par les CRS. Et voilà, ça a été une prise de conscience très, très brutale parce que je vivais quand même dans l'idée qu'on est dans une démocratie libérale, que la police c'est pas la Gestapo, que j'étais très choquée de voir que la Sorbonne était barrée. Mmh. Donc j'ai dit, mais enfin, j'ai cours, ouais. Donc je rentre, bon, sans savoir très bien ce qui se passait dedans, mais il y avait quand même un scandale. Et puis, donc j'ai protesté avec tout le monde sur... et puis bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, les premiers trucs qui sont partis, les premières grenades lacrymogènes, tout le monde s'est éparpillé, j'ai fait pareil, et puis j'ai vu que les étudiants qui étaient là revenaient à l'assaut, et j'ai fait pareil. Et alors moi j'étais à la fois morte de trouille, parce que vraiment, ouais. La violence c'est pas du tout mon truc, mais en même temps, il y avait vraiment un truc... J'ai le souvenir d'avoir fui devant les CRS et d'être montée dans un bus qui passait et d'un petit peu de prendre les gens à témoin d'une violence, oui. Absolument scandaleuse, et avec l'idée, mais bon, il faut appeler la presse, il faut que ça se sache. Enfin, donc ma prise de conscience, oui. A été tout de même assez, assez forte. Et là-dessus, je suis donc restée autour de la Sorbonne. Jusqu'à l'heure de la fin du film de mon père, j'étais de l'attendre devant le cinéma, je lui racontais ce qui se passait, il était excité comme tout,
ah bon,
et il était alors là vraiment tellement voilà, quelque chose se passait, donc on est retourné vers les flics qui l'a provoqué de façon qui me faisait peur, quoi, en leur disant ah ben, bravo les flics, et ben, vous nous protégez. Enfin, je le retenais un petit peu, non, écoute, ça va. Et alors, il l'armée 68, il l'a vécu comme un... Il disait toujours, c'est maintenant qu'il faut avoir 25 ans.
Ah bon?
Donc, j'avais 24 ans et mon frère avait 26 ans. Et lui, il revivait ce qu'il avait raté pendant la résistance, parce qu'il n'avait pas eu ce...
Oui.
Enfin, pendant la guerre d'Algérie, on s'est mobilisé pas mal. Enfin, on a fait, oui, des manifs, on a fait des...
Mais la Sorbonne était fermée et puis c'était ouverte et il y avait... Enfin...
Alors, après, donc, j'avais... Donc, côté Sorbonne, voilà, oui. Je l'ai vécu là. Et côté Mantes, oui. Donc, il y a eu aussi, dans le lycée, la mobilisation.
Tout de suite.
Là, plutôt après le 13 mai, oui. En fait. Mais mon grand souvenir aussi, c'est le 13 mai.
Oui.
Parce que donc j'allais un peu de l'un à l'autre. Mais le 13 mai, le lycée est venu manifester à Paris dans des cars qui avaient été loués par la CGT. Et avant de partir, il y a eu un petit meeting au départ des cars où il s'est passé un petit accrochage entre un lycéen en particulier qui avait, de façon un petit peu confuse, mais qui expliquait « abat le capitalisme, d'accord, mais aussi abat les communistes ». Et alors, la CGT avait réagi assez vivement. Et puis là-dessus, en rentrant dans les cars, les lycéens avaient un petit peu voulu rester entre eux, ce qui ne plaisait pas aux autres, etc. Et donc finalement je m'étais retrouvée dans un car et pendant le voyage il fallait crever l'abcès sur cette question là ouais. Et je me suis retrouvée dans une position d'animatrice de politique, quoi.
Oui.
J'ai tenu un meeting dans ce car pour faire que la communication se fasse entre les ouvriers et les lycéens. Donc du point de vue des lycéens, j'étais quand même j'étais pionne, j'étais au-dessus d'eux, mais bon, j'avais fait pas mal des débats dans le lycée et tout ça. Bon, je me trouvais toujours dans cette position, toujours un petit peu de personnalité. J'ai vraiment souvenir. En plus, notre car est tombé en panne.
Oui.
On s'est arrêté sur le bord de la route.
C'est en revenant de
Non,
la
non,
manif.
en allant.
En allant,
En allant,
oui.
on est tombé en panne et bon, après, donc, il a fallu attendre un autre car qui est venu nous dépanner et on était sur le bord de la route encore à c'était extrêmement. Enfin, j'ai des souvenirs comme des vieux ouvriers qui nous racontaient le Front populaire.
Oui.
Enfin, l'histoire arrivait comme ça dans l'actualité. Voilà, donc souvenir donc une manif formidable. Et le grand regret de ma vie, là, c'est de ne pas être rentrée à la Sorbonne, à l'ouverture de la Sorbonne, qui n'est que
Oui.
le 13 mai. Mais je me sentais la responsabilité de ces lycéens qu'il fallait que je ramène à bon port. Et puis, j'avais pas. Bon, je crois que je n'avais pas bien compris ce qui se passait à la Sorbonne, quoi. En particulier parce que ceux qui appelaient à aller à la Sorbonne, enfin, en tout cas à l'endroit où j'étais, les militants qui appelaient à aller à la Sorbonne, c'était des. Avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord, hein, qui étaient les trotskistes-lambertistes les plus sectaires de tous les sectaires.
D'accord.
Bon, donc moi j'étais pas dans ce. Mais bon, alors que c'était pas vrai, hein, la Sorbonne, c'était vraiment tout le monde. Hein,
Oui.
Alors
Donc
après,
vous.
je suis retournée. Donc moi, je me partageais les jours. Donc je suis retournée. Donc il y avait les jours où j'étais à Paris et les jours où j'étais à Mantes.
Est-ce que vous faisiez partie des comités d'action, ou comités de base, ou comités de grève, ou quoi que ce soit?
Ben, à Mantes, c'était évident, mais ça se nommait pas. J'étais leader, hein, mais bon, on n'était pas structuré tellement comme ça.
Oui.
À Paris, moins. Je participais. Alors après, par contre, j'ai été très beaucoup. Quand on a occupé, non pas tellement à la Sorbonne, c'était quand même un petit peu la foire. Hein, donc bon, j'y allais, je participais à des trucs, etc. Mais par contre, on a occupé Censier.
Oui.
Et là, j'étais très, 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 plus que présente. En particulier, ben vous avez peut-être, si vous avez vu mes archives, enfin, j'ai un tempérament un petit peu structuré, organisation et mémoire. Et j'ai tenu à. Donc j'étais. Bon, ça s'appelait ce comité d'action, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais en tout cas, il y avait une salle, il y avait
Oui.
la salle de sociaux, qui était donc un peu notre base. Et j'ai tenu là-bas un espèce de journal de bord, en considérant que c'était collectif.
Oui.
Mais en fait, il n'y avait que moi qui. Enfin, il était là, il était dans la salle, tout le monde pouvait consulter, tout le monde pouvait lire. Et en fait, je tenais ça. Et le jour où on a su que la police avait décidé de reprendre Censier, j'ai embarqué ce cahier parce que voilà, c'était. Et donc, ça fait partie des choses que j'ai données
Oui.
à. Que je n'ai jamais été voir. Enfin bon, donc
Bon,
ça m'a fait
d'accord.
rigoler quand on me dit
Oui,
qu'il y avait
ça
un
existe,
fonds François
oui.
Speak.
Et parce que, expliquez-moi une chose, Censier, c'était une université différente, ou c'était
Non,
ça faisait partie de la
ça faisait
Sorbonne?
partie de la Sorbonne, mais les cours magistraux avaient lieu à la Sorbonne et les TD avaient lieu à Censier.
D'accord.
Et donc c'était une petite université dépendante de la Sorbonne, mais c'était parce que c'était avant, il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas les universités ont été séparées 1, 2, 3, 4, 5
Oui,
après.
d'accord.
À cette époque-là, donc Censier, c'était une dépendance de la Sorbonne.
Oui. Et j'ai vu dans ces papiers qu'il s'agissait à un moment d'une crèche sauvage.
Ah, c'est plus tard, la crèche
C'est plus
sauvage.
tard. Oui.
C'est après
Après tous ces
68.
événements.
C'est après la réouverture officielle
C'est à la rentrée plutôt.
Alors,
Ou.
à vrai dire, je ne sais pas très bien parce que j'y étais plus.
D'accord.
Qu'est-ce que j'ai fait à la rentrée après 68? Alors, j'étais à la Sorbonne. Ah oui, alors, oui, alors là, j'ai changé parce que j'ai quitté Mantes. Peu froid là.
Attention
Ah oui,
au
hein,
micro
au
là.
fil. J'ai un petit peu froid là.
Oui.
Donc je ferme, voilà. J'ai quitté Mantes pour une autre base de banlieue Parce que donc à ce moment-là, j'avais donc quand même une licence en droit et une licence en sociaux. Le fait d'être pionne n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux.
Oui.
Et j'aurais. Enfin bon, je pouvais enseigner, quoi. Je pouvais être prof,
Oui.
auxiliaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait un collègue à Mantes qui a été envoyé au lycée de Poissy
Oui.
et qui, pour des raisons personnelles, était catastrophé à cette idée. Et bon, moi j'ai dit, moi ça m'est égal, je veux bien partir à Poissy.
Oui.
Je suis partie à Poissy, puis je suis arrivée là, et donc comme pionne. Et puis en fait, j'ai discuté avec l'administration là-bas. Puis j'ai un peu dit quelles étaient mes compétences.
Oui.
Et il y avait un poste disponible de maître auxiliaire en économie, sociologie, je sais pas quoi, enfin, le truc.
C'est un collège, un lycée, je sais pas quoi.
Un lycée,
Un
un
lycée,
lycée, un
d'accord.
lycée, puisque j'ai enseigné en seconde, en première et en terminale.
D'accord.
Et donc j'ai fait une année, c'était lourd parce que je faisais quand même bon, je devais avoir un demi-service hein, quand même, parce que je faisais la
Oui.
fac en même temps. Enfin, c'était lourd.
Oui.
Comme première année d'enseignement.
C'était en 68, 69?
Oui.
Oui.
Mais à partir de 68, par contre, j'ai été beaucoup plus intégrée dans des groupes militants
Oui.
à la Sorbonne. Et
Lesquels, par
j'étais à ce
exemple?
moment-là, le groupe dont j'étais le plus proche, c'était Rouge.
Oui.
Où j'avais. Bon, et puis j'ai connu à ce moment-là les gens qui sont. Enfin, en particulier Nadia Ringard, qui a été enfin, qui est toujours ma meilleure amie,
Oui.
que j'ai connue en 68 à Sancier.
D'accord.
Et donc ça a duré un an.
Et Rouge, c'était quel genre d'organisme, avec quel point de vue?
Ah ben, c'était la LCR. Rouge, c'était l'intermédiaire entre ce qui est maintenant la LCR,
Oui.
ce qui était la JCR
Oui.
d'avant 68, d'avant la dissolution. Donc c'était les trotskistes les plus ouverts.
Ouvert à quoi?
Ben, au reste, mais surtout aux questions questions sexuelles, aux questions enfin, qui étaient les plus susceptibles d'être un lieu dans lequel on pouvait avoir des discussions, ne pas être d'accord avec tout. Moi, j'ai jamais demandé à adhérer, alors que j'étais vraiment très très proche d'eux. Je ne
Oui.
comprenais pas pourquoi je ne voulais pas. Mais bon, moi, j'ai toujours eu une certaine réticence à l'embrigadement, à être totalement dans un.
Oui, tout à fait. Donc on commençait à parler des questions sexuelles, aussi bien que
Oui,
des questions politiques,
oui,
par
oui.
exemple.
Et ben bon, alors par exemple, on disait Reich.
Oui.
C'est l'époque où la révolution sexuelle a été, et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu un peu ce
D'accord.
genre de. Et je suis allée avec eux, donc ça devait être un comité d'action, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée au congrès de l'UNEF à Marseille en décembre 68.
Oui.
Et c'était. Enfin, là j'ai plongé dans l'univers des militants,
Oui.
bon, puis, et, mais aussi avec bon, les discussions sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur toutes sortes de choses.
Et à part Nadia Ringard, qu'est-ce qu'il y avait à Rouge là à cette époque?
Alors, il y avait celles qui ceux qui devaient être chargées de me faire rentrer, je pense,
Oui.
les jumelles Tratt. Alors, les jumelles, enfin, c'était surtout d'ailleurs Janine qui était chargée de moi, mais elle, j'ai un peu perdu contact avec elle. Par contre, Josette Tratt, je la fréquente toujours, puisqu'elle est chercheuse féministe,
Oui.
et qu'elle a tenu jusqu'à très récemment les cahiers du féminisme, qui étaient le journal féministe de la LCR. Vous voulez pas d'eau?
Non, c'est bon. J'ai un peu tort pour le micro qui commence à...
Ah pardon, il faut que je... se décrocher.
Non, je pense que c'est bon, j'ai toujours le son, mais il ne faut pas que ça tombe plus bas.
D'accord.
Et...
Mais comme leader, c'est ça qui vous intéresse, c'est les leaders.
Ben vous, c'est bien, vous ne citez que des femmes, c'est formidable, est-ce qu'il y avait des bons hommes là-dedans?
Ah oui, bien sûr. Mais... qu'est-ce qu'il y avait? Moi, il y avait, par exemple, il y avait quelqu'un qui me fascinait beaucoup, et en mai 68, et après, mais je le voyais très rarement.
Oui.
C'était Jean-Michel Gérassi.
Oui.
Il y avait aussi le courant politique dont je me sentais le plus proche. Ça s'appelait le MAE, Mouvement d'Action Universitaire.
Oui.
Et en fait, c'était la tendance Cahier de Mai. Quand j'entendais parler ces gens-là, c'est d'eux dont je me sentais le plus proche. Alors c'est des gens qui sont devenus, bah, par exemple, comment ils s'appellent? Ça y est, les noms propres, j'ai vraiment un problème. Marc Kravetz.
Oui.
Jean-Louis Péninou.
Oui.
Des gens qui souvent ont fait une carrière de journaliste, d'ailleurs.
Oui.
Donc c'est deux dont je me sentais le plus proche, mais j'étais pas tellement liée. C'était des gens que... Et alors il s'est passé quand même quelque chose, c'est que jusqu'à mai 68, et en mai 68 y compris, je n'ai pas douté de ma capacité à être, à parler, etc. Par exemple, il y a eu une journée où on avait décidé de faire des mini-meetings et de faire des attroupements partout dans la rue.
Oui.
Et donc, ça ne me faisait pas peur d'aller provoquer un meeting, d'aller... Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est dans l'après 68 que quand même le mouvement étudiant dans son ensemble s'est un petit peu dispersé et il est resté que les organisations. Et dans les organisations, il y avait des leaders qui savaient parler.
Oui.
Et par rapport auxquels... Je me sentais pas cette capacité-là. C'est-à-dire que j'étais à la fois, bon, j'avais des connaissances politiques quand même,
oui,
assez importantes. J'étais pas une militante qui arrivait, quoi, qui connaissait rien. J'avais lu beaucoup de choses,
oui,
mais j'avais pas lu les textes canoniques du marxisme-léninisme, trotskisme. J'avais une vision plus moderne, disons. Et alors j'ai pas mal été quand même dans les écoles de formation de Rouge ou des trucs comme ça.
Qui formait qui?
Ah ben, qui formait les militants.
D'accord.
Dans lequel il y avait un groupe qui avait un grand côté pédagogique très important.
Et ça se passait comment? Dans les groupes, dans les séminaires, dans les...
Oui, c'était des réunions où il y avait des séminaires.
Oui. Il y avait un autre mouvement qui s'appelle Vive la Révolution.
Alors,
vous en faisiez partie? C'était plus
alors,
tard?
C'est plus tard.
Oui.
C'est un petit peu plus tard, pas beaucoup, hein, c'est un an. Puisque en 69... j'ai posé ma candidature à la fac à Dauphine pour avoir des cours.
Oui.
Et donc dans l'équipe de droit public et sciences politiques, j'ai été recrutée là. En même temps que d'autres... j'ai été recrutée sur des bases politiques, hein, parce que ceux qui tenaient l'équipe voulaient faire rentrer des militants et ils s'amusaient beaucoup à dire qu'ils avaient... que c'était la grande tradition de l'université libérale parce qu'ils avaient recruté deux trotskistes et deux Mao. Et donc, alors comment ils nous avaient recrutés? En fait, ils avaient pris contact parce que, bon, par l'intermédiaire, moi j'avais un copain de mon frère à qui j'avais dit que je pourrais me enseigner à la fac et qui en avait parlé à son, à son assistant de sciences politiques, qui en avait parlé, etc. Et je crois que j'ai dû les rencontrer avant.
Oui.
Et donc, où ils m'ont briefé de façon à ce que je passe la commission en apparaissant comme n'étant pas de leur côté, mais du côté des profs qui allaient. Voilà, il fallait que je dise les choses qui allaient plaire aux profs.
Oui.
Et voilà, c'est comme ça que j'ai été. Enfin, c'est parce que j'avais la double compétence du droit et de la sociologie, en fait, que j'étais.
Donc, ce n'était pas uniquement pour des raisons politiques.
Non, mais y a eu un espèce de passage comme ça. Je ne les connaissais pas. Ce n'était pas du piston. Mais c'était. J'avais pas besoin de me situer par rapport à eux, mais seulement par rapport aux profs à qui je pouvais dire que j'avais fait des sondages, des je sais pas quoi,
oui.
ce qu'elle allait leur plaire, quoi. Et donc j'ai rencontré là Tiennou Grimbach.
D'accord.
Qui avait été recruté en même temps que moi.
En tant que Mao ou en tant que trotskiste?
En tant que Mao, moi j'ai été recruté en tant que trotskiste. Enfin, l'autre trotskiste qui avait été recruté, elle a fini au cabinet de Chirac. Hein. Donc c'est quand même assez variable.
Oui.
Elle était conseillée sociale de Chirac à un certain moment.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelait Marie-Hélène Hubert, je crois. Je sais plus.
Oui.
Enfin, elle avait fait une thèse sur le trotskisme.
D'accord.
Et bon, enfin, j'ai complètement perdu après. Je sais pas, quand j'ai vu arriver ça, c'était assez curieux. Il fallait pas rester longtemps à Dauphine. Et donc, quand j'ai rencontré Thiénot, d'une part, j'ai rencontré Thiénot, et d'autre part, mon amie Nadia, que je n'avais pas vue depuis un certain temps, a commencé à me téléphoner, à me laisser des messages et à dire qu'elle voulait me voir, et à finalement me dire que... Alors, à ce moment-là, je vivais chez moi. J'avais mon premier appartement derrière Sancier, dans la rue derrière Sancier. J'avais traversé la rue. Je faisais aussi des cours à Sancier.
D'accord.
En sociaux. Et donc, Nadia est venue me voir chez moi. Elle était la première personne. Et m'a donc expliqué qu'elle était dans un groupe militant et que ça les intéressait de me rencontrer parce que, comme j'étais à Mantes, j'étais aussi à Mantes dans un groupe militant, dans un comité d'action à Mantes. Et ça les intéressait de me rencontrer.
De lycéens ou de...
Non, de... Non. Enfin, il y avait des lycéens, mais il y avait aussi des profs, des pions, des ouvriers, enfin...
Oui.
Comité d'action local, quoi.
Oui, d'accord.
On était une poignée. Et donc, ça intéressait le groupe dans lequel Nadia était entrée, parce que eux, ils militaient sur Flin.
Oui.
Et donc, ça m'a semblé, enfin, je lui dis à Nadia, mais...
Qui est à ton côté, la Mante.
Oui. Et ça me semblait ressembler à ce dont j'avais entendu parler de la part de Thiénot. Et donc, j'ai dit à Nadia, mais est-ce que c'est pas la même chose que celui de Thiénot? Et oui. Donc, Nadia était donc à la base ouvrière, et j'étais donc une recrue très intéressante pour eux, parce qu'ils voulaient entrer en contact avec mon groupe mantais.
Ah oui, d'accord.
J'ai donc fait la liaison, et donc a démarré là un noyau militant donc très marqué par la personnalité de Thiénot. Et donc moi je suis rentrée là-dedans, donc ça voulait dire se lever à 4 heures du matin de temps en temps pour aller distribuer des tracts à la sortie de l'usine.
C'était la base ouvrière.
Oui.
Qui était aussi ça faisait partie de la vie de la révolution.
Oui. Oui.
D'accord.
Et c'est vrai que ce groupe Vive la Révolution, là je m'y suis sentie vraiment bien. On m'a pas demandé d'adhérer. On m'a pas demandé d'être d'accord avec tout.
Oui.
Et en plus de ça, donc à Dauphine, on avait, parce qu'on avait des lieux comme ça partout, donc j'avais Mantes, la base ouvrière, et à Dauphine, on a créé aussi un mouvement Bon, il y a eu une grande grève
Oui.
des étudiants à Dauphine, mais dans lesquels les enseignants étaient aussi très présents, qui s'est terminée par une occupation des locaux, on a
D'accord.
été, et ceux qui avaient occupé les locaux ont à ce moment-là constitué un groupe qui s'appelait le MLE, Mouvement de lutte étudiants-enseignants,
Oui.
et qui était un endroit assez merveilleux parce que tout le monde était là. C'est-à-dire que tout ce qui, sur le plan général, était groupuscularisé, c'est-à-dire non seulement les trotskistes, les Mao, mais tous les petits groupes, quoi. Il y avait
Oui.
des chapelles partout, et à Dauphine, il n'y avait pas de chapelle. À Dauphine, on était tous dans le MLE.
Parce que Dauphine était comment comme université? Une nouvelle université
Oui,
ou
Dauphine ouvrait, enfin Dauphine avait ouvert en 68, et là on était en
comme
69.
un peu comme Vincennes?
Oui, en même temps, il y a eu les deux universités qui ont ouvert, mais
D'accord.
évidemment sur des créneaux différents.
Donc à Dauphine, c'était plutôt quoi comme
Alors c'est une université qui allait devenir une université de gestion,
Oui.
mais en même temps, qui est bon, privilégiée par le fait qu'il y avait un encadrement très important, et que comme ça avait ouvert en 68, tous ceux qui avaient investi comme prof le premier cycle, c'était le comité de grève de la fac de droit de 68. Donc c'était très très militant,
D'accord.
très très à gauche. Enfin, c'est resté pas mal d'ailleurs. Il y a plein de copains à Dauphine, bien que ça soit devenu quand même très management.
D'accord. Et pour revenir à Flins, comme vous dites, vous étiez bien placé parce que vous faisiez partie de beaucoup de réseaux et vous faisiez un peu le pivot
Oui.
entre les deux ou les trois.
Oui.
Mais comment est-ce que ça s'est passé?
Ben, ça s'est passé bien. Je sais pas. Enfin, le niveau de militantisme autour de Thiénot et de la base ouvrière était quand même beaucoup plus élevé que ce que j'avais avant.
Oui.
C'est-à-dire, c'était beaucoup plus exigeant en temps, en engagement.
Oui.
Et alors là, enfin, ça en même temps, c'était vraiment des. Alors là, la proximité qu'on avait dans le groupe était très très grande. Là, on vivait ensemble, on se quittait pas.
Vous vivez ensemble
On
où?
vivait ensemble, on était ensemble beaucoup. Donc, par exemple, mon appartement
Oui.
était occupé par tout le monde. La clé était à disposition. Comme
D'accord.
j'habitais non seulement à côté de Sancier, mais aussi à côté de la librairie la commune, qui était la librairie de VLR, tout le monde savait où était cachée ma clé. Et donc chez moi, c'était ouvert à tout le monde. Et puis après aussi, assez vite, on a vécu en communauté, à Mantes.
À Mantes. C'est avec. Enfin, je viens de lire le livre de Hélène Bleskin, elle était là. Vous rigolez.
Oui, ben voilà, j'ai objet. Voilà, pour
Vous
Nidia.
étiez là.
Ah oui, j'étais là. J'étais là. Je suis la non-nommée de ce livre,
D'accord.
qui se termine par « Et l'enfant de Pierre, c'est pour quand? » Ben,
Ouais.
l'enfant de Pierre était dans mon ventre.
Ah ouais, d'accord. D'accord.
Voilà, parce que Pierre, c'était évidemment Thiénot,
Ah, d'accord.
qui est mon compagnon depuis cette date, le père de mes deux enfants.
Ah, ouais, d'accord.
Et bon. Alors donc la communauté a été. Là par contre, ça a été très très conflictuel, très 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 dur.
C'est pas facile de vivre ensemble. C'était une bonne idée,
Mais non,
mais.
il y avait la communauté était. En fait, il y avait plusieurs maisons.
Oui, d'accord.
Et donc il y avait Mantes, où
Oui.
j'y étais, mais j'y étais pas complètement, non. Parce que. Et puis il y avait Gargenville, donc
Oui,
qu'Hélène Bleskin
oui,
raconte,
oui.
et les filles de Gargenville, j'étais leur bête noire.
Ah bon?
Ah oui,
Pourquoi?
c'était. Oh, bah, pour de vrai, bien sûr, parce que pour des raisons de jalousie. J'avais pas, à l'époque, j'avais pas une relation stable avec Thiénot, mais quand même, il y avait quelque chose. Il était quand même un peu celui que tout le monde
Le
voulait.
chef, quoi.
Pas vraiment le chef, parce que c'était une période où on ne pouvait plus être chef.
Oui.
Un peu, il y avait une espèce de, quand même, une fascination pour.
Oui.
Non, c'était une période où on pouvait pas, enfin, il y avait une telle mise en question des chefs qu'ils ne pouvaient pas se positionner comme chefs. Mais bon. Non, d'une part, il y avait ça, et d'autre part, il y avait aussi une rupture politique, parce que par rapport à ce qu'a été donc le MLF qui a démarré, moi je suis partie MLF complètement, alors que les filles de Gargenville sont restées quand même très ouvriéristes, bas ouvrières. Leur truc principal était tourné vers les hommes,
Oui.
notamment les hommes de la classe ouvrière. Il y avait à côté le MLF, ça a été une rupture au sens où on s'occupait de nous-mêmes désormais.
Oui.
Notre problème, c'était nous, c'était les femmes, c'était la collectivité des femmes. Et
D'accord.
les filles de Gargenville sont pas rentrées là-dedans, sauf de façon ponctuelle. Évidemment, elles venaient dans les manifs, elles venaient dans des trucs particuliers. Mais leur appartenance principale, elle était la région, etc. Et moi, bon, j'ai dû quitter la communauté parce que c'était quand même pénible.
Mais vous aviez des discussions sur la libération sexuelle, ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire vivre en communauté, l'abolition de la famille, ou est-ce que ça voulait dire que les femmes commencent à militer elles-mêmes?
Ah ben, tout ça, bien sûr. Mais il y avait donc en même temps, bien sûr, une remise en question du couple, de la famille, mais de la monogamie, etc. Donc c'était aussi nos vies qui étaient.
Oui, bien sûr. Mais vous commencez à parler du MLF, mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre prise de conscience féministe, comment ça s'est passé et quand?
Alors, je pense que j'ai toujours été féministe.
Oui.
Mais bon, je l'exprimais comment? Bon, j'avais toujours. Enfin, je pense que ma position personnelle, vue comme position collective, ça, je pense que ça a toujours existé.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai toujours. Ben, non, si on peut quand même dire Simone de Beauvoir. J'ai lu Simone de Beauvoir, j'étais en seconde.
Oui.
Et donc ça a été un truc très 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 fort, un peu je me suis retrouvée totalement. Donc à partir de là, bon, il se passait rien hein, sur ce plan-là, mais moi j'étais là-dedans, hein, s'il n'y a pas de doute. Alors dès que j'ai commencé à entendre parler de choses comme ça, alors on a entendu parler, bon bah ça vous avez lu Génération j'imagine, donc. Le premier moment où on a entendu parler de on n'a pas on, ce qui s'est passé pendant mai 68 à la Sorbonne, je n'ai
Oui.
pas su. Les trucs du MLA, j'en ai pas entendu parler. Premier truc dont on a entendu parler, c'est la réunion de Vincennes en mai, je crois, 70,
Oui.
et quelqu'un est venu nous apporter un texte. Qui depuis est paru dans l'Idiot international et qui racontait le premier meeting de femmes à Vincennes que les hommes avaient essayé d'empêcher de se tenir, et il y avait eu un échange de polémique.
Oui.
Et donc quelqu'un est venu nous apporter à VLR ce texte pour qu'on le publie dans tout le journal qu'on publiait, et ça a été là on s'est senti très très dans la communauté d'idées par rapport à ces femmes qui au nom de la Révolution réclamaient le droit de se libérer elles-mêmes.
Mais pendant un certain temps, il y avait une sorte de coexistence, même de convergence, si vous voulez, de gauchistes et de féministes.
Oui, ben, il y avait le groupe femmes de VLR. Hein. Le groupe femmes
Oui.
de VLR, il a démarré en août 70 avec la première réunion qu'on a faite.
Oui.
Et bon, alors il y a eu bien sûr des clivages, mais on a démarré avec quand même, on a un petit peu un sentiment de tenir par les deux bouts
Oui.
le politique et le féministe. Et puis, jusqu'à la dissolution de VLR, hein. VLR a été dissous en mars ou avril 71.
Oui.
Et le groupe femmes de VLR s'est fondu dans le MLF totalement. Mais on a été. De toute façon, même quand on était le groupe femmes de VLR, on avait des contacts avec tout le reste du mouvement.
Et qui est-ce qui était dans ce groupe femme?
Alors, il y avait Nadia, bien sûr. Il y avait Annette Lévy-Villard. Il y avait Sophie Cartier-Bresson. Il y avait, je ne sais pas, je me rappelle qu'il y en avait une fille qui s'appelait Martine.
Et VLR a éclaté en partie parce que, à cause de ces tensions entre les féministes sur la question du féminisme,
Pas
ou non?
que féministes, aussi les jeunes
Oui.
et les homosexuels.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que tous les groupes, parce que VLR était très ouvert au fait que ce qu'il appelait les mouvements autonomes de masse,
Oui.
donc était tout à fait favorable à ce que les femmes s'organisent entre elles, que les jeunes fassent leur groupe, que les homosexuels, donc étaient le phare, fassent leur groupe, etc. Mais tout ça tirait de tous les côtés, il y avait des contradictions de tous les côtés. Et moi, VLR, je m'y sentais bien. Hein. Et donc, le jour où la dissolution a été décidée, j'étais très étonnée.
Oui.
Parce que je voyais, surtout que la dissolution a été proposée par Roland Castro, qui était le. Non seulement ça a été proposé par Roland Castro, mais ça a été accepté comme une évidence par tout le monde. Et bon, moi, je trouvais ça dommage parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on est parti chacun dans sa spécificité.
Oui.
On a eu bon, des relations privées, bien sûr, mais en tant que collectif, on n'a plus eu de relation avec. J'ai plus aucun truc de collectif mixte.
Pourquoi est-ce qu'elle a proposé ça?
En fait, Roland. Enfin, il paraît qu'il avait. Enfin, il a eu un conflit très violent avec Richard Dehaye, qui était
Oui.
donc le leader du FLJ, du
Oui.
Front de Libération de la Jeunesse, qui était désormais handicapé à la suite de brutalité policière. Hein, il avait perdu les yeux.
Ah bon?
Ils avaient eu un truc assez violent où finalement Richard avait reproché à Roland de l'avoir envoyé au casse-pipe. Enfin enfin, je pense que c'est plus. Enfin, sûrement, il a dit ça d'ailleurs, Roland. Oui, c'est ça, dans cette dissolution. Il a dit. Il voyait plus comment tenir ensemble.
Oui.
Les contradictions entre les jeunes, les femmes, bon, les homosexuels ne savaient pas déclencher encore, parce que tout continuait à exister.
Parce que le FHAR,
Le phare, oui.
oui, le phare, ça avait commencé à cette
Ça
époque-là
avait
ou?
commencé, oui, ça avait commencé à cette époque-là, et c'est au moment de la dissolution de VLR qu'est sorti le numéro 12 de tout, donc le numéro phare.
Oui.
Qui a fait réagir les femmes très fort. Enfin bon, là, donc les homosexuels ont pris une grande part à ce moment-là. Et les femmes y ont réagi parce que la vision de la sexualité qu'il y avait dans ce numéro nous a vraiment fait dresser les cheveux sur la tête et on a. Et là, on a commencé à dénoncer la conception de la libération de la libération sexuelle qu'il y avait autour de tout
Vous l'avez dénoncé?
Oui, dans tout.
D'accord.
Dans tout, on a fait un, on a eu un, je raconte ça dans mon livre.
Oui.
Sans dire évidemment qui fait quoi, mais on a été, on a commencé, enfin quelques-unes. D'abord, on fait un papier qui s'appelait Vie et mœurs des Thuossiens, et qui racontait comment la libération sexuelle servait à amener des femmes dans tous les lits, à se partager les femmes et à tout ça. Ils ont très très mal supporté cette allégorie, et ils nous ont enjoint de nous expliquer politiquement, et donc on a écrit un texte qui s'appelle « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre », dans lequel on donne des explications, enfin bon, qui est un texte qui a vraiment été un texte collectif et dans lequel on s'est...
Oui.
Et donc on est passé dans le numéro 15 de tout.
D'accord. Et parce que vous, au lieu de la libération sexuelle, vous proposiez quoi?
Ben, ce qu'on expliquait dans...
Par la famille bourgeoise?
Non. Ce qu'on expliquait dans ce texte-là, c'est que leur vision de la libération sexuelle, c'était il n'y a pas de limite. Ce qu'on cherche, c'est la jouissance, et plus on jouit, mieux c'est. Et qu'on disait, étant donné la réalité des rapports entre les hommes et les femmes, jusqu'à maintenant, les femmes ont toujours joui, enfin, elles ont toujours été dans une situation de domination, et c'est pas leur propre désir qu'elles connaissent, mais elles se soumettent au désir des hommes. Donc, notre recherche de libération à nous, c'était de connaître notre propre désir, et de construire des rapports qui ne soient pas des rapports de pouvoir.
Et donc, quand vous dites que c'était un texte collectif, vous l'aviez écrit avec...
On était assez nombreuses, et surtout, oui. Ce qui était assez marrant, c'est que... Enfin, ça a été très, très long à ce qu'on trouve le fil pour écrire ce texte. Donc, on a fait plusieurs réunions. Et finalement, je me souviens que c'était Elisabeth Salvaresi qui a donné l'idée de départ, qui était la jalousie. La jalousie des hommes et la jalousie des femmes, c'est pas pareil.
Ah oui.
Donc l'idée que la jalousie des hommes, c'était la peur de perdre ce qui leur appartient, et que la jalousie des femmes, c'était la peur de perdre ce qui nous donne un rapport au monde. Et à partir de là, on est parti là-dessus. Et bon, on a commencé un jour, ce texte est écrit en une journée, ça se passait chez Elisabeth, et c'était pas toujours la même qui tenait la plume, et c'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient là. Donc ça circulait, les gens donnaient une idée, on écrivait, etc. Et à la fin de la journée, ce texte était écrit, on s'y retrouvait complètement, et il était réellement, je peux dire, l'idée de départ, c'était celle d'Elisabeth,
oui.
Mais impossible de dire... qui a écrit ce texte.
Ouais.
C'était ni un groupe fermé, toujours les mêmes, parce que ça avait circulé dans la journée. Et donc on est allé apporter ce texte, on était vraiment contente et fière de nous, on est allé apporter ce texte au comité de rédaction de tout. Puis on avait aussi un petit peu battu le rappel, il y en avait plein aussi qui n'avaient pas écrit le texte, mais enfin bon, on était nombreuses, et là on a gagné la partie. Là.
D'accord.
Et ils se sont écrasés. Et ils se sont écrasés avec en plus quelque chose, c'est qu'à la suite de ce... On avait l'habitude d'ailleurs, après les comités de rédaction de tout, qui se tenaient dans un local historique, puisqu'il a été après le local du MLAC, on allait dîner dans un resto à côté qui s'appelait chez Mohamed. Et là, on s'est retrouvés pour dîner, et on était très nombreuses. Et il y avait deux salles, hein, donc on a été dans une salle, toutes les femmes. Et il y avait dans le comité de rédaction deux ou trois garçons qui n'avaient aucun problème avec les femmes, ce qu'on appelait les gentils, aucun rapport de pouvoir avec eux, qui étaient toujours un peu en compétition parce qu'ils avaient toujours des relations amoureuses avec certaines femmes qui pouvaient en même temps avoir des relations amoureuses avec les chefs. Et donc, mais ceux-là, c'était nos amis.
Oui.
Et dans cette réunion, eh bien, ils étaient très, quand ils venaient dans la salle des femmes, ils étaient accueillis sans aucun problème. Et alors, les hommes étaient, je sais plus lequel, qui disait, ce qui me fait mal aux tripes, c'est les petits épargnés. Donc, les hommes qui étaient du côté des femmes,
D'accord.
donc les harkis, quoi. Ils étaient du côté des femmes, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, le premier texte de femme qu'on avait fait à Dauphine était un peu sur cette idée que dans la critique du pouvoir, il n'y avait pas que les femmes qui étaient concernées, il y avait aussi beaucoup d'hommes,
Oui.
mais qu'il n'y avait que chez les femmes que c'était collectif, et c'est pour ça que c'était à partir des femmes que ça pouvait venir. Et que donc les hommes, enfin il y avait donc des hommes qui étaient de notre côté.
Mais ça n'a pas duré, la
Ben
mixité.
ça n'a pas duré parce que les lieux collectifs mixtes
Oui.
n'ont pas duré.
D'accord.
Après la crise du phare, après la dissolution de VLR, etc., on n'a plus l'occasion de faire les choses ensemble.
D'accord.
D'ailleurs, ça a été aussi la crise du militantisme masculin. Hein. Les hommes ont cessé de. Les groupes militants, il en est resté chez les trotskistes plus solides que d'autres, mais le maoïsme, enfin notre maoïsme, le
Oui.
maoïsme libertaire, a cessé d'exister.
Oui, d'accord.
Ça a été la fin de VLR, ça a été quand même une. Chacun est reparti, qui faire une analyse, qui faire des enfants. Ou faire telle ou telle chose, quoi. Mais
Oui.
ça s'est arrêté un peu quand même à ce moment-là.
Mais pour revenir au MLF, vous vous appelez l'MLF à ce moment-là, mais parce que dans votre livre et dans d'autres livres, on parle de plusieurs tendances
Oui.
au sein du MLF.
Mais justement, moi, je dis, quand on dit plusieurs tendances, je ne m'y reconnais pas. C'est comme ça que l'idée de mon livre est partie de là. Est
Oui.
partie enfin de ce truc qui était tout le temps les trois tendances.
Oui.
Et moi, je ne me reconnais dans aucune tendance. Or, je ne me suis jamais senti marginale au MLF. Et donc, mon idée, ça a été d'essayer de montrer comment le MLF ne s'est structuré en tendances contradictoires que. Après un certain temps. Au début, ça circule entre les tendances.
Oui.
Donc j'ai été aux confins de VLR, j'ai été à Psikepo, mais étant à Psikepo, j'étais pas ennemie des féministes révolutionnaires. J'ai été dans des trucs où on se. Et j'étais surtout au groupe du jeudi, qui était un groupe de dissidentes de tous les côtés.
Oui.
J'ai été quoi bon j'ai fait des torchons enfin j'ai été dans tout de tous les côtés quoi
Vous étiez bien avec tout le monde.
oui mais enfin je discutais avec tout le monde
Oui.
hein, parce que mais moi j'étais absolument le groupe du jeudi c'est un groupe qui refusait que le MLF se polarise se bipolarise et se divise entre Psikepo, les féministes, les luttes de classe, puisque on était, on voulait faire avec tout le monde, on faisait avec tout le
Oui.
monde. On faisait, avant le groupe du jeudi, ce qui a déterminé le groupe du jeudi, ça a été une manifestation qu'on a faite, donc là, avec les groupes de quartier et donc la tendance lutte de classe. On a fait. Je me pose une question là, c'est ça. Oui, c'est ça. On a fait le texte avortement, contraception, sexualité, réformisme. Enfin, c'était encore avec des gens qui étaient partout.
D'accord.
On n'était pas. C'était pas des blocs fermés. Jusqu'à 75, il n'y avait pas de. Donc Psikepo s'est fermé beaucoup, Et bon, avec un truc stalinien, hein, avec des procès, des exclusions, etc.
Oui.
Et c'est fabriqué contre les autres, en fabriquant une image mythique du féminisme. Et moi, à ce moment-là, enfin, comme d'autres, hein, ma façon de prendre. Non, enfin, dans le groupe du jeudi, on était. On refusait cette division.
Oui.
Et en même temps, on était très bien dans le groupe du jeudi. Mais on voulait pas être entre nous. Donc on a rendu public ce qu'on était.
Oui.
Donc on est allé distribuer dans des réunions de Psykepo le texte qu'on avait écrit qui s'appelait Une, au pluriel, ne se divise pas qu'en deux, qui était donc un refus de l'idée des deux lignes,
Oui.
la ligne juste et la mauvaise, qui était le point de vue de Psykepo. Et donc on expliquait comment on était là-dedans, tous les problèmes qu'on se posait, toutes les contradictions qu'on avait de tous les côtés, etc. Et ce texte a séduit beaucoup.
Oui.
Et donc, à la réunion suivante, ah,
Je vais poser, si vous voulez.
oui. J'ai une amie,
Non, c'est bon.
voilà,
J'ai pas
oui.
d'erreur. Bon, c'est parti.
Voilà. Donc le groupe du jeudi, donc j'en étais, qu'il avait été un peu envahi par des tas de gens qui trouvaient qu'on était formidables. Et notre objectif était de faire le torchon numéro 7.
Oui.
Et on voulait faire ce torchon avec le groupe de Marseille.
Oui.
Avec lesquels on était en relation, qui venaient de temps en temps. Enfin, il y avait deux Marseillaises qui venaient, à chaque fois qu'elles venaient à Paris, elles venaient à nos réunions et on s'entendait très bien. Et voilà. Donc, on avait cette idée de faire le torchon. Et l'été 74, nous sommes allés à Marseille, donc pour. Non, Nicole. Nicole. Le meuble à thé. Non, non, ça, tu fous ici. Bon.
Je l'ai trouvé.
Oui.
C'est pas bien.
Et nous sommes donc allés, nous sommes descendus, on était cinq, on est descendus donc à Marseille. Et en fait, le groupe de Marseille était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Il y avait des psychépos dedans.
Oui.
Et les psychépos avaient invité psychépos.
Oui, d'accord.
Et elles avaient l'intention de enfin, elles venaient enfin, ça s'est très très mal passé
Oui.
avec donc les filles de psychépos qui ont débarqué. Et l'atmosphère est devenue comme ça très tendue, sans qu'on sache très très bien ce qui se passait. Et le deuxième jour, quand on essayait de dire mais qu'est-ce qui se passe, il y en a une, c'est la première fois que je la voyais, et qui m'a dit en deux mots, je vous demande des nouvelles de votre thèse que vous faites sur notre dos.
Oui.
Et curieusement, sur cette accusation terrible de faire une thèse, le groupe a tout d'un coup, on était des vilaines. Donc à l'époque, je faisais ma thèse avec Nadia.
Oui.
Et voilà, on était. Et en réalité, donc après, on a évidemment su que les copines qui nous avaient fait venir, elles n'étaient pas là, parce qu'elles avaient déjà subi cet ostracisme des
Oui.
intellectuels rejetées parce qu'elles font une thèse et que donc elles rentrent dans l'institution. Qu'elles trahissent quelque part
Oui, d'accord.
la mobilisation des femmes. Et voilà, donc on était dans la même chose. Et ce qui a été. Alors bon, ça a été évidemment très très dur,
Oui.
mais notre groupe de cinq est resté soudé à ce moment-là.
Pardon,
Mais
qui était dans votre groupe de 5?
les cinq qui étaient descendus à Marseille.
Oui.
Alors il y avait donc Nadia et moi, il y avait. Marthe, comment elle s'appelle Marthe? Je ne sais plus, elle est médecin, elle. Je me souviens d'elle parce qu'elle avait commencé à réagir aux accusations en disant et Antoinette, elle n'en profite pas, je ne sais pas quoi. Enfin, des accusations qui me semblaient. Non, quand même, on ne va pas faire des choses pareilles. Donc, on se laissait traiter comme on se laissait traiter, mais nous, on ne faisait pas ça. Et puis, deux, qui étaient donc des nouvelles recrues. Dont je ne me souviens plus des noms, mais il y en a une qui est rentrée à l'IB comme claviste.
Oui.
Tu
as la principale.
Ben, c'est-à-dire qu'on était. La thèse que vous faites sur notre dos, c'est qu'on était toutes les deux.
Oui, d'accord.
Visées.
Et
le groupe du jeudi n'a pas résisté à cette. À ce truc-là.
Oui.
Et donc, voilà, le groupe du jeudi, c'est terminé. Et je pense que la fin du groupe du jeudi, c'est la fin du mouvement au sens où il y a de la mobilité.
Et vous dites que c'est l'été de 74.
C'est l'été 74.
Oui. Et après, vous avez rejoint quel...
Alors, à ce moment-là, moi, j'ai un peu arrêté le militantisme actif et, par contre, développé beaucoup... donc, ce qui est passé de l'activisme, si on veut, à la recherche. Donc, à ce moment-là, mes groupes de référence, c'est... Donc, à l'époque, c'est... juste après la fin du groupe du jeudi, on a fait le GEF, le groupe d'études féministes de l'Université Paris 7.
Oui.
Et donc, c'est... Bon, voilà, là, on part dans la recherche historique, beaucoup, hein. J'étais pas historienne, mais enfin, on est toutes parties à la recherche de l'histoire du féminisme.
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer, enfin, pas en deux mots, mais le fond du problème avec Psyché Po, quelle était vraiment votre différence?
C'était les pratiques, hein, c'était c'est le côté stalinien. Nous, on voulait pouvoir discuter, pouvoir ne pas être d'accord et qu'on voulait pas être des perroquets. On voulait pas avoir, on voulait pas non plus des trucs d'exclusion, d'obligation d'être comme ci, d'être comme ça, etc. C'est la chapelle.
Parce que Psyché Po avait un point de vue très exact sur la nature de l'oppression de la femme, c'est ça?
Psyché Po avait une seule parole, qui était celle d'Antoinette.
Oui.
Antoinette, considérant enfin, son apport théorique, qui est réel, hein, qui était l'articulation de la politique et de la psychanalyse, ne pouvait être disputée par personne.
D'accord.
Donc tous ceux qui avaient une compétence dans l'un ou l'autre de ces domaines équivalente à la sienne étaient à... Donc elle a eu il y a eu des phénomènes d'exclusion dès qu'il y avait des désaccords sur sa pratique, sur... donc c'était un phénomène de pouvoir tout à fait extraordinaire puisqu'elle avait en analyse la moitié des femmes du groupe qui étaient totalement fascinées et donc elle disait des choses fascinantes à certains moments mais c'était pas possible d'être en désaccord de discuter de pas et puis en même temps il y avait elle disait des choses intéressantes mais ce qui était répété par tout un tas de personnes autour qui étaient complètement décérébrées et qui ne faisaient que répéter sans bien comprendre éventuellement la parole du maître, ça c'était insupportable. Et dès que quelqu'un avait un point de vue original, c'était... il y avait des phénomènes de enfin, je crois que si on dit stalinien, c'est vraiment ça.
Et est-ce qu'il y avait un rapport entre les points de vue féministes différents et la pratique personnelle, enfin les choix personnels les différentes
Alors,
personnalités.
ça aussi, par exemple,
Oui.
hein, on pouvait être jugé sur ces pratiques si elles n'étaient pas suffisamment conformes à une règle qui d'ailleurs pouvait varier totalement.
Oui.
Donc, par exemple, ben, l'homosexualité était un must.
Oui.
Mais dès que, par exemple, sur cette question de l'homosexualité, moi je me souviens, donc ça c'était, que je ne dise pas de bêtises, la tranche sur mer, un été, j'essaye de me souvenir de la... Ben c'était dans le torchon numéro 5, hein, donc c'était 73. En 73, donc c'était pas encore ce dont je parle, hein, c'était... Le groupe du jeudi a peut-être existé qu'un an. Enfin, en tout cas, en 75, à la tranche, il y avait, donc l'homosexualité dominait comme modèle,
oui.
Et je sentais, comme c'était un truc national, il y avait des femmes qui venaient de partout, et je sentais un malaise de beaucoup de femmes qui se sentaient, on ne peut pas parler de nos problèmes de couple,
oui.
Parce que on serait tout de suite accusé d'être des traîtres et je ne sais pas trop quoi. Et bon, comme il y avait quand même un côté très spontané, chacun faisait. Et j'ai fait la proposition, j'ai annoncé une réunion sur les rapports hétérosexuels.
Oui.
Il est venu plein de gens et il est venu là, les grands chefs aussi, donc Andy et Antoinette et sa copine Marie-Claude. Qui sont venus et donc je pense que il y avait eu avant ça il y avait eu un débat d'abord sur l'homosexualité où il y avait un truc sur je suis homosexuel par choix politique enfin bon un débat là-dessus enfin bon peu importe en tout cas ce truc sur les rapports hétérosexuels elles sont venues Antoinette et expliquer que bien entendu, que d'ailleurs elles avaient continué à avoir des relations avec des hommes et que c'était très important, qu'il n'était pas du tout question de considérer que c'était mal, etc., etc. Donc il y avait un truc, une obligation diffuse.
Oui.
Dès qu'on posait les choses ouvertement, on disait, mais bien entendu, il n'y a pas de normes ici, on n'est pas...
Est-ce qu'il y avait, dans ces débats, est-ce qu'il y avait des contacts avec des féministes à l'étranger ou c'était...
Ah oui, cette rencontre, par exemple, à La Tranche, c'était une rencontre européenne.
Oui.
Donc en particulier grand souvenir des Italiennes qui étaient magnifiques et qu'on peut retrouver maintenant dans des bien entendu dans la recherche féministe parce que ça s'est passé comme ça.
Vous vous souvenez de certains noms?
Oh ben je me souviens de Luisa Passerini.
Ah oui, Passerini était là.
Oui,
ah
mais oui, je me souviens d'elle, pas, non pas, je me souviens des Italiennes.
Oui.
Qui étaient formidables parce que elles s'habillaient le soir, elles étaient bon. Et quand j'ai rencontré Luisa Passerini dans un colloque. Je ne pense pas qu'elle se souvenait de moi non plus, mais elle se souvenait de La Tranche, et donc on s'est rappelé de cet endroit. Donc ça nous a rapprochés, évidemment. On avait ces
Rappelez-moi, La Tranche, c'était...
La Tranche, donc c'est ce qu'on pourrait appeler une université d'été. Hein, c'était des rencontres européennes à La Tranche sur mer, dans une colonie de vacances qu'on occupait, et où il y avait... quelques centaines de femmes, donc européennes,
ouais, d'accord.
qui avaient été organisées par Psychépo, enfin par, quand je dis Psychépo, par le groupe autour d'Antoinette. Hein. Donc moi j'allais et j'ai continué à aller après dans les...
C'était ce truc à Marseille?
Non.
Non.
Non, non. Non,
c'est
non,
où la tranche sur mer?
La tranche sur mer, c'est en Vendée.
En Vendée.
C'est sur l'Atlantique.
Donc il y avait des universités d'été.
Non, assez... ça ne s'appelait pas université, ça s'appelait oui. Rencontre.
Hein, oui,
c'était rencontre européenne.
Et il y avait aussi des Britanniques, des Allemands,
oui,
des noms en particulier?
Non.
Non, surtout les Italiennes.
Oui, enfin je me souviens des Italiennes. Non, mais je me souviens aussi d'autres. Bien sûr, il y avait des Suédoises, il y avait des échanges. on comparait un petit peu ce qui se passait dans les différents pays.
Oui. Bon, une dernière question. Quand vous regardez cette époque-là de maintenant, enfin, vous avez écrit votre bouquin, etc., mais quels sont quel est votre point de vue maintenant sur cette période-là, en ce qui concerne votre propre vie et puis la société française en général? C'est une grande question, pardon. Mais...
bon.
Mais vous voyez ça plutôt positivement ou...
Ah ben oui, c'était une période merveilleuse.
Oui.
Et puis, moi j'ai rien renié. Hein. J'ai pas eu besoin de... Parce que j'ai... Bon, j'ai fait des erreurs, hein, mais j'ai pas fait de choses dont je puisse avoir honte. Et j'ai pas non plus... J'ai évolué, mais sans... C'est pas une parenthèse. Hein. J'ai été interviewée une fois par une journaliste qui m'avait dit, mais enfin, qui était à propos du mariage, et qui m'avait dit, et quand la parenthèse s'est refermée, j'ai dit, mais moi, c'est pas une parenthèse. Ma vie a commencé là, ma jeunesse, hein, parce que je n'étais pas adolescente, hein, quand même, j'avais 25 ans au début du mouvement. Ma vie a commencé là, elle s'est posée là, elle s'est cherchée, elle s'est trouvée. Et voilà, j'ai continué avec une évolution, bien sûr. Je suis devenue plus chercheuse que militante.
Oui.
Mais vraiment, mon histoire est...
Est-ce que le,
et
est-ce
ma vie
que...
privée, donc, c'est un peu pareil. Hein. J'ai vécu la grande période de la libération sexuelle avec des rapports compliqués. À un moment, la période la mieux pour moi, c'était quand j'avais deux hommes. Et que du coup j'étais respectée, parce que quand il y en avait un qui me disait je passerai ce soir ou demain, je lui disais ben, faut que tu me dises quand tu passes parce qu'il faut que je m'organise. Et voilà, ça c'était. Et quand j'avais justement une double relation entre un
c'était Tiano.
Oui, et l'autre c'était un gentil de.
Un gentil, voilà.
Voilà, et qui s'aimait beaucoup par ailleurs.
Ah oui, d'accord.
Donc il n'y avait pas de truc entre eux. Enfin, ça m'arrive de le revoir, mon amant de la Saint-Jean, c'était très bien.
Oui.
Bon, et puis après, évidemment, il y a eu la question d'avoir des enfants, pas évident, hein, dans ce type de choses, donc comme quand même un petit peu obligé de tricher avec les choses pour se retrouver dans la situation d'avoir un enfant.
Donc vous avez eu des enfants avec Tiano?
Mais la première, ça a été quand même pas évident, hein, quand je me suis trouvée dans la situation d'être enceinte et de décider de toute façon de le garder, quoi qu'il arrive, et de lui dire, toi tu fais ce que tu veux. Et...
Qui est né en quelle année?
73.
73. Et
j'ai commencé...
Question qui manque de tact, vous étiez, en ce moment-là, vous étiez engagé dans le mouvement pour le droit à l'avortement. Mm-hmm.
Oui, ben je manifestais enceinte, ouais. avec des panneaux qui disaient « Nous aurons les enfants que nous voudrons ».
Pardon, une dernière petite question. Est-ce que votre rapport avec vos parents a changé pendant cette période-là?
Oui, bien sûr.
Ils vous ont soutenu ou ils étaient
Alors,
choqués?
Non, ce qui est
ou...
un peu compliqué, c'est que en même temps, il y a eu une crise entre mes parents.
Oui.
Et alors, d'abord, le MLF, ça a été un mouvement de retisser un lien avec ma mère.
Oui.
J'avais eu de très mauvaises relations avec ma mère, et avec le MLF, j'ai compris pourquoi elle avait été tellement casse-pied dans la vie, elle était, et comment je m'étais constituée contre elle aussi, et que voilà, et que finalement elle était dans une position très Donc je me suis pas mal rapprochée d'elle.
Oui.
Et par ailleurs, mon père à ce moment-là est parti avec une petite jeune. Et enfin, il y a eu une période un peu longue et compliquée d'ailleurs dans laquelle on était nous dans ce moment de libération sexuelle, et mon père voulait pas quitter ma mère et voulait avoir une double vie.
Oui.
Et pendant un temps, ma mère acceptait. Mon père prenait sa, enfin, il prenait pas sa retraite, mais il quittait Mantes. Il allait s'installer donc dans le Midi, et donc il pensait vivre avec deux femmes. Enfin,
Oui.
l'accord étant d'ailleurs que il n'avait pas de relation sexuelle avec la jeune, mais que bon, bref. Il y a un moment où ça se passait comme ça. Et c'est vrai que moi, dans cette période-là, je considérais que ma mère était l'opprimée et celle qu'il fallait soutenir. Et je me souviens, un jour, mon père m'a dit « Je comprends pas pourquoi tu me bats froid et tu es tout le temps du côté de ta mère et tout ça. » J'ai expliqué que il me paraissait... C'est ma mère qui, la première, m'avait fait la confidence, alors que mon père avait fait la confidence à ma sœur.
D'accord.
Et donc voilà. Et puis alors après, par contre, quand ma mère est partie et qu'il est donc parti avec sa jeune femme, ma mère là, par contre, a été très très voulait absolument empêcher toute relation avec mon père. Et j'ai pas accepté ça. Donc moi, je suis allée le voir. J'ai rencontré mes enfants sont allés en vacances chez mon père. Alors que les autres petits-enfants ont mis beaucoup plus de temps, enfin, ils ont pas... Donc ma mère m'en a beaucoup voulu de pas avoir fait la forteresse assiégée autour d'elle.
Mais vos parents ne se sont pas réconciliés.
Ma mère est morte, et avant, donc on savait qu'elle allait mourir, et il y a eu deux mariages dans la famille, et mon père est venu pour le mariage de sa petite fille aînée, sans sa femme, parce que ma mère n'aurait pas accepté. Et il a dit qu'il ne trouvait pas ça normal et qu'il ne viendrait plus à un autre mariage sans sa femme. Et quand mon neveu s'est marié, donc il avait dit qu'il ne viendrait pas au mariage parce que ma mère ne voulait pas... Et j'ai écrit à mon père en lui disant que j'avais fait un rêve, donc je lui racontais mon rêve, et je lui dis que je ne supportais pas l'idée que ma mère allait mourir et qu'ils n'allaient pas se revoir à la dernière occasion.
Oui.
Donc il est venu.
Bon, sur cette note un peu triste,
même, je crois qu'on peut... pas si triste,
non,
voilà. Donc, puisque vous vouliez des nouvelles de mes parents.